7h36, bonjour Catherine Dutu.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Votre revue de presse internationale, elle débute avec le Proche-Orient. Le Proche-Orient, une nouvelle fois à la une ce matin, alors que l'armée israélienne encourage les habitants de Rafah à se rendre dans les zones humanitaires.
L'armée israélienne commence à larguer des dépliants, à envoyer des SMS et à passer des appels téléphoniques aux Palestiniens pour leur montrer, carte à l'appui, quels itinéraires emprunter pour se rendre donc dans une zone humanitaire, raconte le Times of Israel, avant le lancement d'une offensive terrestre. Alors, pour l'instant, l'ordre d'évacuation ne s'applique qu'à certains quartiers dans l'est de Rafah, précise le journal israélien Ma'ariv, et non à l'ensemble de la ville où s'entassent près d'1,5 million d'habitants dans le sud de la bande de Gaza, soit 5 fois la population d'avant-guerre, relève la BBC. Cela représente 22 000 personnes par kilomètre carré. La maladie se propage déjà avec des épidémies de dysenterie, d'hépatite A et de méningite, sans compter le manque de nourriture et le manque d'espoir aussi. Comme le raconte à la BBC Rehab Abou Daka, une mère palestinienne de 7 enfants, il s'accroche à elle car elle représente le dernier havre de paix de leur vie chamboulée par la guerre. Au-delà de la mince toile de tente en plastique où cette famille tente de survivre près du cimetière de fortune de Rafah, cette mère et ses 7 enfants entendent les chiens venir en meute par dizaines. Des chiens errants, des animaux domestiques dont les propriétaires sont morts ou sont déplacés, tous devenus sauvages, explique la BBC. Ils cherchent ce qu'ils peuvent pour manger. Vous devinez malheureusement la suite. Le cimetière près duquel vit cette famille palestinienne comporte de nombreuses tombes, peu profondes, où les gens déposent leurs morts jusqu'à ce qu'ils puissent les ramener dans leur région d'origine. Les chiens affamés viennent déterrer et manger ces corps. Rehab Abou Daka et ses enfants les ont vus. Cette mère palestinienne est décharnée, épuisée, écrit la BBC. Sa bouche et son nez recouverts d'un tissu pour repousser la puanteur des tombes. Au lieu de jouer ou d'être en classe, son fils a dessiné l'autre jour une tombe et au milieu, il a dessiné un cadavre. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Qu'on vit dans des conditions misérables ? Ce mot ne recouvre même pas notre réalité, confie-t-elle désespérée à la BBC. Après une attaque meurtrière à la roquette du Hamas contre Israël, l'État hébreu a répliqué hier par des frappes sur Rafah qui ont fait 16 morts hier soir, rapporte le Times of Israel. L'armée prépare donc une offensive terrestre, mais où pourront aller les réfugiés ? Demande le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé à la BBC. Le docteur Piper Korn, qui a travaillé pendant 7 ans en Afghanistan, n'est pas un homme qui se laisse facilement décourager, écrit le média public britannique. Mais il est aujourd'hui marqué par la fatigue et la certitude qu'une crise encore plus grave se prépare. À Gaza, et en particulier à Rafah, l'espoir s'éteint brusquement à la mort d'un être cher ou bien peu à peu, alors que vous êtes poussé d'un camp sordide à un autre, conclut la BBC, et que les mots manquent face à l'accumulation des questions des enfants.
La chaîne Al Jazeera, Catherine, n'est plus accessible en Israël.
Écran noir sur les télévisions, site internet bloqué, du matériel de la chaîne financée par le Qatar a également été saisi hier. Des cartons et des appareils de prise de vue ont été retirés des locaux d'Al Jazeera, situés dans un hôtel de Jérusalem-Est, raconte le Washington Post et le Guardian. Ces quotidiens américains et britanniques soulignent, avec le Wall Street Journal, qu'Al Jazeera est la chaîne la plus regardée du monde arabo-musulman et que c'est l'un des rares médias internationaux à assurer une couverture presque ininterrompue de la guerre à Gaza, avec des reporters sur le terrain. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accuse la chaîne d'avoir porté atteinte à la sécurité d'Israël, explique le quotidien Haaretz. Il est notamment reproché à Al Jazeera de répéter les déclarations du Hamas comme des faits ou d'avoir récemment publié une vidéo d'une Palestinienne prétendant avoir été violée par des soldats de l'armée israélienne, ce qui était faux, rappelle le Guardian. Alors que le journal qatarien Al Arab ironise, lui, sur le calendrier, Al Jazeera a été fermé après la journée mondiale de la liberté de la presse, vendredi dernier. De son côté, l'ONG Sikouy Ofok, une organisation juive et arabe qui cherche à promouvoir une société égalitaire et partagée, estime que le gouvernement veut réduire au silence les voix arabes et juives qui s'opposent à la guerre à Gaza, peut-on lire dans le journal Haaretz. Israël ne peut pas prétendre être une démocratie et en même temps empêcher les journalistes de faire leur travail, estime Walid Omari, chef du bureau d'Al Jazeera à Ramallah, dans cette vidéo publiée par le Guardian. Il faut donner toutes les informations au public, dit-il. Aujourd'hui, nous avons une équipe juridique qui étudie la manière de répondre à cette nouvelle loi israélienne, dangereuse, selon le directeur d'Al Jazeera, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, parce qu'elle Israël incite, dit-il, les extrémistes en Israël à attaquer les journalistes, en particulier ceux d'Al Jazeera. Doha News, autre média du Qatar, rappelle que depuis le début de la guerre à Gaza, au moins 141 journalistes ont été tués, notamment au sein du personnel d'Al Jazeera. La chaîne déjà endeuillée rappelle le Washington Post, lorsque Shirin Abu Akleh, correspondante palestino-américaine du réseau, avait été tuée par des tirs israéliens en Cisjordanie en mai 2022. Le Wall Street Journal s'interroge, lui, sur les conséquences de cette fermeture d'Al Jazeera dans le cadre global des négociations pour une trêve et la libération des otages. Les discussions se tiennent à Doha, la capitale du Qatar. Autre point de vue, dans un édito pour le Guardian à Londres, l'écrivain Ethan Nechin affirme que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est tourné vers la censure pour survivre politiquement, alors que l'opinion publique doute de sa campagne militaire et même que la perspective d'une victoire militaire s'éloignerait, selon cet écrivain. Et dans cet édito, conclut-il, seul le silence et la censure peuvent désormais aider Benjamin Netanyahou.